France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, Vatican II, quand l'Église tente sa révolution. 2500 participants, des années de travail, 16 textes, 4 constitutions, 9 décrets et 3 déclarations, 1 milliard d'individus concernés. Voilà les chiffres hallucinants du deuxième concile œcuménique, connu sous le nom donc de Vatican II. Il s'ouvre en 1962 et s'achève 3 ans plus tard. Il s'agit sans doute de l'un des conciles les plus importants de l'histoire, en tout cas de notre histoire récente. Car il a débouché sur l'abandon des messes en latin, l'ouverture aux autres confessions et la liberté religieuse. Pour certains, il sonne le tocsin, la fin du catholicisme. Pour d'autres, il révolutionne le rapport et la place de l'Église dans le monde moderne et assure sa survie. Tout cela sous la houlette d'un pape qu'on croyait de transition, Jean XXIII. Notre invitée aujourd'hui, Agnès Desmazières, historienne, autrice d'une enquête inédite menée dans les archives du Vatican, intitulée « Sans loi ni foi, prêtres et violences sexuelles au cœur du système catholique », livre paru en 2024. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Juliette Proutot, rédaction chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter.
Rome, 25 janvier 1959. Chaque année, le 25 janvier est un jour important dans le calendrier catholique. D'après les textes sacrés, il correspond au jour où le futur apôtre Paul se convertit au christianisme. Alors certes, c'est ni Noël ni Pâques, mais quand même. Cette date est porteuse de sens. De nos jours, elle marque la fin de la semaine pour l'unité des chrétiens. Instituée au tout début du XIXe siècle, cet événement relativement méconnu en dehors de l'Église concerne pourtant l'une des questions les plus sensibles de l'histoire chrétienne, l'œcuménisme. Durant cette semaine de l'unité, tous les chrétiens sont invités à dépasser leurs divisions historiques, à repenser autrement leurs relations, leur rapport à l'altérité spirituelle et sociétale. Le sujet est important, mais il n'excite pas plus les foules qu'il n'attire les médias. Et ce 25 janvier de l'année 1959 ne fait pas exception. Nous sommes donc à Rome, dans l'une des 4 basiliques majeures de la ville, l'église de Saint-Paul hors les murs. Ce n'est pas la basilique la plus connue. Pourtant, jusqu'à la construction de Saint-Pierre du Vatican, il s'agissait du plus vaste édifice chrétien au monde. 131 mètres de long, 65 de large, 80 colonnes. Eh bien, c'est au sein de cet impressionnant ensemble que se présente le pape Jean XXIII au matin du 25 janvier 59 pour célébrer la fin de la semaine de l'unité. A priori, cette sortie sans grande portée, ce qui explique d'ailleurs que les bancs de l'église soient dans l'ensemble très clairsemés. Ne sont quoi ? Une vingtaine de cardinaux à s'être déplacés pour cette petite cérémonie. Et puis il n'y a pas de journalistes, pas de caméras, quasiment personne pour écouter le discours que le pape s'apprête à prononcer. Et ceux qui sont présents ne sont pas prêts à entendre ce qui s'annonce.
Vénérable frère et cher fils, c'est avec un peu de tremblement d'émotion, mais en même temps avec une humble résolution, dans notre détermination, que nous prononçons devant vous le nom d'une double célébration que nous proposons. Un synode diocésain pour Rome et un concile œcuménique pour l'Église universelle. De tous, nous implorons un bon début, une bonne continuation et un heureux succès dans ces propositions de travail courageux. Une lumière pour l'édification et la joie de tout le peuple chrétien. Une invitation renouveler aux fidèles des communautés séparées à nous suivre. Elles aussi, aimablement, dans cette recherche d'unité et de grâce à laquelle tant d'âmes aspirent de tous les points de la terre.
Convoquer un concile, a-t-on bien entendu ? L'annonce assomme l'auditoire. Oui, les cardinaux sont médusés, pris de court, perdus même. Mais enfin, pourquoi un concile ? Pourquoi vouloir tout chambouler ? Les conciles, c'est pour les crises. Et l'Église catholique n'est pas en crise. Elle ne craint rien. Elle est tellement bien ancrée, autour du pape, une figure solide, centralisée, bref. La curie romaine est sous le choc, et surtout irritée par cette décision surprise. C'est peu dire également que la puissante et tentaculaire administration du Vatican n'aime pas beaucoup les surprises. Alors, à quoi joue ce pape ? Jean XXIII devait être un prélat de transition après le pontificat flamboyant mais mouvementé depuis XII. Il fallait un personnage consensuel, voire transparent. C'est pour ça qu'il était élu en octobre dernier, pour temporiser, certainement pas pour faire la révolution. Croire que l'ancien cardinal Giuseppe Roncalli, devenu pape, allait rester à sa place, inaugurant les chrysanthèmes, cette place qui était décidée avant lui par d'autres que lui, quelle erreur ! La curie, les croyants, le public, tout le monde se disait « Oh, avec lui on sera tranquille ». Eh bien non, justement, parce que ce pape n'est pas comme les autres. D'abord, il n'a pas peur. Il est plutôt âgé, n'est plus ambitieux, d'ailleurs, il ne voulait même pas devenir pape. Bref, il n'a rien à perdre. Et puis surtout, il a une intuition. Doucement mais sûrement, l'Église s'éloigne du monde moderne. Elle manque d'élan. Pire, elle se replie sur elle-même, sur son centre, Rome, sur la curie, sur le pape. Elle n'aura bientôt plus rien en commun avec l'humanité qu'elle entend incarner ou défendre. Telle est l'intuition de Jean XXIII. Et c'est de cette intuition que tout est parti. Avant d'être un bouleversement majeur et mondial, le Concile Vatican est d'abord le fruit d'une rencontre entre un homme, fut-il pape, et son époque. Un homme dont on n'attendait rien, mais qui bouleversera tout. Comme l'explique l'académicien Louis Armand en 73 sur le RTF.
Notre époque est caractérisée par les progrès techniques qui permettent aux hommes de communiquer entre eux, de se rencontrer, et qui font à l'échelle de l'humanité que chacun peut être un prochain pour l'autre. Mais à ces progrès matériels doit être associé un progrès spirituel qui est la recherche de la compréhension réciproque des hommes. Cette compréhension réciproque des hommes doit jouer entre les diverses nations comme entre les diverses confessions. Or, ce qu'a fait Jean XXIII, il a donné l'exemple et par conséquent, il restera le type, l'exemple, le symbole de l'homme qui était en avance sur son temps.
Jean XXIII naît donc Angelo Giuseppe Roncalli en 1881 à Sotto il Monte, un petit village du nord de l'Italie. Quatrième enfant d'une fratrie de 14, ses parents sont des agriculteurs. Il grandit dans un milieu relativement pauvre qui lui fait apprécier la juste valeur des choses et la simplicité des relations, comme il le racontera ensuite. Simplicité, le mot le suivra toute sa vie. Dès son enfance, la religion tient une grande place dans la vie d'Angelo. Ses parents sont catholiques, bien sûr, mais plus qu'une affaire de famille, c'est surtout grâce au curé de son village que le futur pape prend goût à la religion. Il a 11 ans seulement quand il part étudier au petit séminaire de Bergame. Il entre chez les franciscains à 16 ans, un choix qui en dit long sur le jeune adolescent qu'il est. L'ordre franciscain repose sur la pauvreté individuelle et collective, l'humilité, la fraternité universelle, des valeurs qu'il tâchera de conserver toute sa vie. Il est ordonné prêtre à 23 ans et apprend beaucoup de l'évêque de Bergame qu'il sert à l'époque, Monseigneur Radini Tedeschi. Ce dernier est connu pour sa vivacité, son esprit réformateur. Il est proche de ses paroissiens et emmène le jeune Angelo partout où il va. Visites, pèlerinages, œuvres sociales, le cadet absorbe tout. Il a le sens du contact, il aime ça. Sa bonhomie plaît. Mais la guerre arrive et bouleverse l'ordre des choses. L'évêque meurt en 1914 et Angelo devient aumônier militaire. Il passe ensuite quelques années à Rome où son franc-parler ne lui vaut pas que des amis. Puis il est envoyé à l'étranger en tant que nonce apostolique, autrement dit représentant du pape. Illustration avec ce voyage à Alger en 1950.
Alger a reçu la visite de son Excellence Monseigneur Roncalli, nonce apostolique en France et doyen du corps diplomatique, venu apporter à tous les fidèles de l'Algérie le salut et la bénédiction paternelle du Saint-Père. Au cours de la locution qu'il devait prononcer à la cathédrale, Monseigneur Roncalli exalta les qualités chrétiennes des catholiques d'Algérie et apporta un message de paix et de concorde à tous les croyants afin qu'ils s'unissent dans la paix pour le bien de l'Algérie tout entière.
Si sa formation à Bergame a révélé son attrait pour le terrain, sa proximité avec les gens, son expérience internationale va tout changer. Elle permet à Angelo Roncalli de prendre de l'épaisseur, de s'ouvrir à d'autres cultures, de comprendre d'autres enjeux qui dépassent l'échelon local. En Bulgarie, puis en Turquie, il apprend à dialoguer avec d'autres confessions, chrétiennes ou non. Il affine aussi son sens politique. Un sens qui lui sera propre, aussi atypique qu'efficace. Et à chaque fois, ou presque, son charme opère auprès du grand public comme auprès des diplomates ou hauts placés qu'il rencontre. Il faut dire aussi que l'homme est drôle, oui, le pape le plus drôle de l'histoire, selon certains. Plein d'autodérision surtout. Il répétait souvent « Tout le monde peut devenir pape, la preuve, c'est que je le suis ». Du haut de son 1m67 et de son embonpoint notable, il plaisante également sur son physique. « Visiblement, les tailleurs ne voulaient pas de moi comme pape », s'éclame-t-il. Mais son physique, justement, le distingue de ses collègues d'abord et des autres papes ensuite. Il renvoie à quelque chose de chaleureux, profondément humain. Alors, ce n'est ni un saint ni un héros, mais il est loin de l'image austère, froide ou autoritaire jusqu'alors associée aux plus hauts responsables de l'Église. Monseigneur Swenens, archevêque de Bruxelles et proche de Jean XXIII, le confirme dans une interview pour l'ORTF en 1973.
Ce qui rendait le pape particulièrement sympathique, c'était sa spontanéité. Spontanéité qui, quelquefois, lui jouait de mauvais tours. Je me souviens qu'un jour, il était en train de lire un discours. Il n'en sortait pas bien. Il trébuchait dans la lecture. Il avait quelque peine à déchiffrer le texte qu'on lui avait remis. Et il s'est tout simplement arrêté, il a levé les bras, il a dit « Écoutez, excusez-moi messieurs, mais c'est la première fois que je vois ce texte. »
Après la Seconde Guerre mondiale, le prêtre diplomate est envoyé à Paris. Preuve que la curie place des espoirs en lui. Un certain nombre de membres du clergé ayant collaboré avec le régime de Vichy, la France de l'après-guerre est un terrain très sensible pour l'Église. Terrain qui nécessite un vrai doigté politique. Eh bien, les années françaises d'Angelo Roncalli sont un succès. Il parvient à gérer les tensions tout en s'ancrant dans le pays, dans les territoires, auprès des gens. Le tour de force est tel que le pape le rapatrie en Italie pour qu'il devienne le patriarche de Venise. Un poste qui a déjà servi de marchepied pour la papauté. D'ailleurs, le 25 octobre 1958, c'est chose faite.
Cette attente a duré 3 jours. C'est seulement au soir du 28 octobre qu'une fumée d'abord indécise annonçait à la foule romaine l'élection attendue. Puis, la foule voyait s'ouvrir la baie centrale de Saint-Pierre et le cardinal Canali apparaissait pour annoncer le nom de l'élu.
Sante Romane Ecclesie, Cardinal Roncalli.
Son éminence, Angelo Roncalli, patriarche de Venise, entré cardinal au conclave, allait en sortir souverain pontife. C'est ce même homme qui devait bientôt apparaître dans un délire d'acclamation lancé par plus d'un million d'hommes.
Le pape Jean XXIII conserve le même style, chaleureux, audacieux, modeste, que lorsqu'il était prêtre, et immédiatement. Il donne le ton. L'Église doit être l'Église de tous, particulièrement celle des pauvres. Elle doit retrouver sa vocation première, servir les personnes humbles et les déshérités. Et le nouveau pape applique rapidement ses principes. Ainsi, dans la foulée de son élection, il visite la prison de Rome. C'est le premier pape de l'histoire à le faire. Je suis aussi l'évêque de ses prisonniers, répond-il au curieux. Ce que les catholiques et le monde, de façon générale, commencent à comprendre, c'est que derrière sa simplicité, sa bonhomie, son humour, Jean XXIII cache une vision très forte de l'Église. Il y a même quelque chose de subversif dans cette vision. Ceux qui en doutaient à la fin de l'année 58 sont bien obligés d'obtempérer quand le pape annonce la création d'un concile. Et pour être certain qu'on comprenne bien son intention, Jean XXIII précise que ce concile ne sera pas dogmatique, pas vertical ou autoritaire. Non, il veut faire de cet événement un aggiornamento, littéralement une mise à jour. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le Concile Vatican II, quand l'Église tente sa révolution.
Affaires Sensibles.
Inter, actualité.
Fabrice Drouel.
Au micro, Jacqueline Baudrier. L'événement du jour, c'est à Rome qu'il est attendu. C'est Vatican II, le Concile œcuménique. Et dans un peu plus d'une heure, on verra à Rome, et vous verrez aussi si vous avez la télévision, et à la radio, nos reporters verront pour vous et essaieront de vous faire vivre en direct l'ouverture de ce concile, l'impressionnante procession sur la place Saint-Pierre, le défilé imposant de près de 3000 pèlerins. Jusqu'au 8 décembre, ils vont travailler à bâtir l'église des temps modernes. Le grand problème du concile, c'est celui de l'unité des chrétiens. À ce propos, vous le savez, on n'attend pas de miracle. Le problème est trop complexe, la séparation a été trop longue. Cependant, l'église orthodoxe aurait finalement décidé de se faire représenter. Une précision encore pour vous donner une idée de l'ampleur de ces grandes assises du catholicisme. 85 États, dont certains n'entretiennent pas de relations diplomatiques avec le Saint-Siège, ont envoyé des délégations à Rome pour l'ouverture du concile.
Le spectacle de la procession des pères conciliaires entre la chapelle Sixtine et la basilique Saint-Pierre est grandiose. Il faut imaginer plus de 2500 individus, que des hommes évidemment, marchant lentement, en silence, dans les rues de Rome sous un ciel sombre et pluvieux. Il y a presque quelque chose de surnaturel dans cette scène. Jamais autant d'évêques ne s'étaient réunis depuis les tout premiers conciles des chrétiens. Pour donner une idée de la taille d'une telle assemblée, eh bien, c'est comme si notre Parlement comprenait 4 fois plus d'élus qui parleraient 80 langues différentes pour débattre jour et nuit. On imagine facilement les difficultés pratiques d'un tel barnum. D'ailleurs, en parlant de langue, c'est évidemment en latin que s'expriment tous les intervenants du concile. Mais tout le monde n'a pas les mêmes facilités. Témoignage dans le documentaire sorti en 2006 de Véronique Beaulieu-Mativet intitulé « Vatican II, des images et des hommes ».
Je me souviens très bien de le matin dans la Aula Conciliaire et dans Saint-Pierre, hein, lorsque un prélat, un évêque américain se mettait à parler, tout le monde rigolait, parce que personne ne comprenait. Hein. Il parlait d'ailleurs impeccablement le latin, c'est pas le latin qui était en cause, hein. Il savait l'écrire, il savait etc. Mais l'accent était tel. Et lorsque Mgr Le Cordier, qui était à l'époque auxiliaire de Paris, qui était un peu un titi parisien, qui avait sa gouaille, j'allais dire, dans son expression, dans sa voix, se mettait à parler aussi, tout le monde applaudissait, parce que c'était amusant. Mais le père Le Cordier ne maniait pas le latin d'une manière rapide et un peu de qualité, mais ça fait rien.
Alors, il y a autre chose qui étonne et qui détonne quand on regarde les premières images de Vatican II. Pour la première fois, l'Europe n'est pas la seule représentée. C'est-à-dire qu'un tiers des évêques présents viennent d'autres continents, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie. Bon, ça nous semble évident aujourd'hui, mais c'est du jamais vu à l'époque. Cette situation porte en elle une petite révolution, parce qu'elle met en avant l'universalisme de l'Église. Et ce n'est plus seulement un mot, un souverain poncif. C'est une réalité qui se dessine et qui s'impose désormais jusqu'au Vatican. L'ouverture au monde voulue par Jean XXIII ne s'arrête pas là. Pour la première fois, des représentants des autres religions sont invités au concile. Près de 40 observateurs issus des églises orthodoxes, protestantes, mais aussi coptes d'Égypte, arméniennes, anglicanes, assistent également au débat. Une fois encore, c'est du jamais vu. D'ailleurs, ces représentants semblent eux-mêmes étonnés de l'accueil qui leur est réservé. En témoigne à la télé de l'époque, Oscar Kuhlmann, théologien protestant, invité au concile.
Notre présence au concile comme telle marque, je crois, un grand progrès au point de vue œcuménique. Pensez au sort qui a été réservé dans le passé aux non-catholiques par certains conciles. Eh bien, tous les matins, quand je nous vois occuper nos places, qui sont des places d'honneur en face des cardinaux, je me rends compte du changement radical qui s'est produit. Je mentionne la grande confiance qu'on nous témoigne. On nous a confié les documents secrets sur lesquels on discute actuellement et que nous étudions avec un esprit critique, évidemment, avant les séances. Et enfin, malgré tout ce qui continue, évidemment, à nous séparer, pas d'illusion, je vois un signe plein de promesses dans le fait que dans tous les débats, les membres du Concile sont préoccupés par le renouveau de l'Église catholique et qu'ils placent le problème œcuménique dans cette perspective.
Autre dimension qui distingue ce Concile des précédents, c'est son ancrage dans le contexte géopolitique si particulier des années 60. Parce que ce qui distingue Jean XXIII de ses prédécesseurs, c'est l'intime conviction que l'Église doit épouser son époque. De régulière, elle doit devenir séculaire. La conviction aussi qu'elle ne peut pas rester imperméable aux enjeux politiques qui traversent la vie des croyants. Et l'époque est à la guerre froide. Alors le pape prend rapidement position contre la course à l'armement qui embrase les deux blocs et entr'ouvre légèrement la porte vis-à-vis de l'URSS post-stalinienne. Signe de cette porte qui s'entrouvre, en avril 63, un représentant du Vatican est envoyé en tournée en Hongrie et en Tchécoslovaquie. Ça n'était pas arrivé depuis 1945. L'historien allemand Hans Jakob Stelle raconte alors que McCone, le patron de la CIA de l'époque, proche au demeurant de Jean XXIII, interpelle ce dernier sur la reprise de la communication avec les communistes. Le pape lui rétorque que les États-Unis aussi maintiennent des relations diplomatiques avec l'URSS. Ce à quoi McCone répond « C'est différent, il y a des raisons pratiques, comme le commerce. » Eh bien, le pape aussi a sa propre forme de commerce, le commerce des âmes. Tels sont ses motifs pour garder une ligne de communication avec le monde communiste, conclut Jean XXIII. Autant d'éléments qui traduisent bien sa vision pour l'Église et pour le Concile. Mais il n'est pas seul à bord, et la Curie romaine compte bien garder la main sur ce qui pourrait se décider pendant les débats. Un pape ouvert d'esprit, ben c'est bien. Un concile, passe encore. Mais il faudra pas que les choses aillent trop loin quand même. Alors, entre 1960 et 1962, pendant les deux années que dure la préparation de l'événement, la tentaculaire et conservatrice administration de l'Église fait en sorte de restreindre la liste des sujets à aborder, de déterminer en amont ce qui pourra ou non être débattu, de quoi fortement limiter les possibilités de changement, bien sûr. Et c'est bien le but de la manœuvre. La preuve, la Curie ne tient pas compte des questionnaires qui ont été envoyés aux évêques du monde entier pour que le Concile soit en phase avec la réalité de l'Église, telle qu'elle est vécue partout ailleurs. Non. Au lieu de ça, elle rédige directement plusieurs projets de texte qui devront ensuite simplement être amendés ou votés par l'Assemblée. Oui, sauf que cette fois, les évêques, disons, progressistes, refusent de se laisser dicter leur comportement. Ce concile, c'est leur chance, peut-être unique, de faire bouger les choses dans l'Église. Alors ils ne lâchent pas et obtiennent de pouvoir lancer les débats comme ils l'entendent. À partir de ce moment-là, le concile tel qu'il a été voulu par Jean XXIII peut commencer. Même s'il faut bien avouer que les choses mettent un peu de temps à se mettre en place. C'est que ces centaines d'évêques, non seulement n'ont jamais travaillé ensemble, mais ils n'ont jamais eu conscience de former un tout. Or, pour faire avancer ce concile, ils doivent apprendre ce qu'est la collégialité, comment la faire fonctionner. Et pour ce faire, rien de mieux qu'un peu de team building au café.
Le bar qui... Et là aussi, sous ces voûtes, et où l'on va de temps à autre se rafraîchir, se détendre, nous a permis de connaître pas mal d'évêques. Et alors nous nous sommes mis à les inviter chez nous. Et nous n'avons pas trop des 2 repas par jour, du midi et du soir, pour recevoir 4, 5, et même il est arrivé jusqu'à 8 évêques par repas dans notre petite fraternité à Rome. Et là, nous poursuivons un dialogue. Et il me semble que la dominante même de ce dialogue, c'est cette commune intention de tous ces évêques de faire passer le message de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui.
La première session de travail du Concile est donc consacrée au débat préliminaire et à l'organisation des travaux. Elle s'achève à la fin de l'année 62. Tous les participants retournent alors dans leur diocèse. Jean XXIII, lui, meurt le 6 juin 63. Il avait été élu à un âge avancé, il savait qu'il ne verrait pas la fin de son concile. Mais dans ce laps de temps, il a initié ce qui, à l'échelle de l'Église, constitue tout de même une petite révolution. Pour preuve, c'est durant la session qui suit sa mort, la seconde de Vatican II, que le premier grand texte du concile, la première constitution, c'est son nom, est adopté. Ce texte doit traiter des questions liées à la liturgie catholique. La liturgie, elle est fondamentale pour les croyants. C'est elle qui dicte, qui ordonne, structure le quotidien des catholiques. La liturgie, c'est la façon dont la foi va être pratiquée. C'est la forme qu'elle va prendre. La Curie avait préparé un texte proposant quelques aménagements mineurs. Usage partiel des langues vernaculaires, simplification de certains rites. Bon, rien de révolutionnaire. Mais les évêques en décident autrement. Le débat sur la liturgie dure plusieurs semaines et révèle les vraies lignes de fracture du concile. D'un côté, les tenants d'une liturgie immuable, en latin, célébrée selon les formes héritées du concile de Trente, vision dans laquelle le clergé dispense la vérité au peuple chrétien. De l'autre, les partisans d'une réforme en profondeur, qui permettrait aux fidèles de participer activement, en conscience, aux rites et prières. Ce qui implique une suppression du latin, puisque, comme le rappelle l'archevêque de Montréal, comment les fidèles peuvent-ils participer à une liturgie qu'ils ne comprennent pas? Et ce sont les progressistes qui gagnent la partie en votant le 4 décembre 63 par 2147 voix contre 4 la Constitution Sacrosanctum Concilium, texte qui autorise l'usage des langues vernaculaires, simplifie les rites, encourage la participation active des fidèles partout dans le monde. L'émotion de la grande majorité des catholiques suite à cette annonce est palpable. Exemple, avec ce micro-trottoir réalisé à l'époque au Québec.
Eh bien, moi, je trouve que c'est très, très profitable parce qu'on en comprend bien la messe, encore plus. Puis nous sommes encore plus disposés à suivre le prêtre qui dit la messe. Là. C'est beaucoup plus intéressant qu'avant.
Que pensez-vous de la messe en français?
Ben, c'est extraordinaire. Enfin, on peut comprendre ce qui se passe.
Ah, je suis 100% satisfait du changement liturgique, en fait, de mieux comprendre la messe, mieux la suivre.
Hein? C'est très bien.
Bien, personnellement, j'aime bien ça. Ça, on est plus proche, disons, de la liturgie, et puis on comprend plus ce qu'on suit. Et puis, on sent vraiment qu'on participe. C'est un dialogue. On peut vraiment voir que c'est un vrai dialogue.
Eh bien, tout ça veut dire que la liturgie peut évoluer, s'adapter. L'Église aussi. Car ce texte change tout pour les fidèles, mais aussi pour la suite du Concile. Il existe désormais une majorité cohérente, capable de s'opposer aux vues conservatrices de la Curie. La révolution Vatican II est en marche. Elle ne fait que commencer. Si les constitutions sont considérées comme les textes les plus importants, c'est ailleurs qu'il faut chercher certaines des plus grandes avancées. Ainsi, le texte le plus débattu du Concile n'est pas une constitution, mais une simple déclaration. La déclaration Dignitatis Humanae, adoptée in extremis lors de la dernière session en 1965, qui consacre que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Ce faisant, l'Église accepte le principe de l'égalité de toutes les convictions religieuses devant la loi civile. Et ça, c'est un changement de paradigme fondamental. Tout cela ne veut pas dire évidemment que l'élan progressiste qui s'empare du Concile ne rencontre pas de résistance. Elles sont nombreuses. Il y a des résistances administratives. La Curie fait traîner les choses matérielles, les impressions, les traductions, juste pour ralentir les travaux, user de la patience des évêques. Il y a aussi la tendance intégriste, qui, quoique très minoritaire, fait du bruit. Sous la direction notamment de l'archevêque français Marcel Lefebvre, figure de proue des traditionalistes. Lui refuse les réformes sur la liturgie ou l'ouverture aux autres confessions. Il sera d'ailleurs excommunié pour cela dans les années 90. Mais il y a surtout les sujets considérés comme trop sensibles, trop progressifs pour être abordés, même pour les plus audacieux au sein de l'Église, ou qui apparaissent comme tels. George Gilson, archevêque émérite présent au Concile, témoigne dans le documentaire Vatican II des images et des hommes.
Paul VI, c'est dans deux domaines, le domaine de la contraception et le domaine du célibat des prêtres, a mis ce qu'on appelle la main dessus, c'est-à-dire il a dit ça, je me réserve. Pourquoi, je ne saurais pas dire. Parce qu'il a peut-être, il a pensé que l'Assemblée conciliaire avait déjà beaucoup travaillé, 4 ans, il fallait absolument conclure, et qu'on n'avait pas le temps vraiment de travailler sérieusement ces deux questions.
Et donc, pourtant, la question du célibat des prêtres avait été quand même posée au moment du Concile.
Oui, elle a été toujours posée. Hein. Bon, sans doute regrettable, parce qu'au fond, on aurait pu très bien ouvrir un bon débat, mais peut-être qu'il aurait fallu quand même un an de plus. La question est restée ouverte. Et la difficulté, c'est que le pape a traité avec beaucoup de sérieux. En confiance, il a pris les décisions qu'il pensait devoir prendre. Et puis, il s'est heurté à une opinion publique qu'il n'accueillait pas. Et pas simplement l'opinion publique générale, mais l'opinion publique chrétienne, catholique.
On ne parle donc ni de contraception, ni du célibat des prêtres, encore moins du divorce ou de l'ordination des femmes. Mais il ne faut pas trahir l'histoire avec une lecture a posteriori des faits. Si Vatican II est un virage progressiste dans l'Église, c'est toute proportion gardée, comme on dit. Il faut toujours le voir à l'échelle d'une institution qui n'est pas prête à faire la lumière sur toutes ses zones d'ombre. Par exemple, dans une tribune publiée dans Le Monde en octobre 2023, l'historienne Agnès Desmazières souligne le silence du Concile sur la question des violences sexuelles dans l'Église, en particulier à l'encontre des mineurs. Nous y voilà. Elle explique que ces violences ont suscité un important débat au moment de la préparation de Vatican II. Preuve que la Curie avait déjà conscience, à l'époque, de la gravité du phénomène. Mais dans un contexte de médiatisation grandissante, le souci de présenter une image positive de l'Église catholique conduit à occulter le problème. C'est la peur du scandale. Certains membres de la Commission pour la discipline du clergé avaient pourtant proposé que les agresseurs sexuels, clercs ou religieux, soient excommuniés de façon systématique, automatique. Vous imaginez le poids qu'une telle décision aurait eu pour l'avenir? Mais la majorité des évêques refusent. Ils veulent garder la main sur les questions liées à la discipline sexuelle du clergé et ne pas se faire dicter leurs règles par Rome. C'est donc une fin de non-recevoir pour la pédocriminalité au sein d'Église. D'une certaine façon, les sujets que Vatican II n'a pas traités, les limites qui ont été imposées, nous disent plus de la volonté d'évolution de l'Église que ceux qui ont été abordés et pas abordés ensuite. Et à ce titre, comme le rappelle Agnès Desmazières, le silence de Vatican II sur les violences sexuelles, dont l'ampleur était déjà bien attestée, questionne ainsi plus largement la capacité de réforme de l'institution ecclésiale.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le Concile de Vatican II, dont nous parlons avec notre invitée Agnès Desmazières. Bonjour.
Bonjour.
Historienne, autrice d'une enquête inédite menée dans les archives du Vatican, enquête intitulée « Sans loi ni foi, prêtres et violences sexuelles au cœur du système catholique », livre paru l'an dernier. Alors, plus de 50 ans après, comment qualifier l'impact de Vatican II sur l'Église catholique, pour l'institution, pour les fidèles? On peut parler de révolution, on peut dire aussi « tente sa révolution ». Qu'est-ce que vous diriez?
Je dirais qu'il s'agit d'un tournant. C'est sans doute l'événement majeur du XXe siècle pour l'Église catholique. D'abord, du fait qu'il s'agit d'une expérience inédite de rencontre. On n'avait jamais vu un tel rassemblement d'évêques et d'évêques du monde entier. Je dirais que ça signale la mondialisation croissante de l'Église avec un écho médiatique majeur de ce fait-là. Tous les médias internationaux scrutent ce qui se passe au sein de l'Église catholique pendant les 3 ans des débats du Concile.
C'est vrai d'ailleurs, en même temps, beaucoup d'archives. Beaucoup d'archives.
Ah, énormément d'archives, c'est des milliers de pages en latin, puisque comme vous l'avez bien signalé, les débats étaient en latin pour la majeure partie. Et je dirais que c'était un élément de catholicité à l'époque. On voit bien le bouleversement aussi linguistique. Ça ne s'est pas limité à la liturgie, vous voyez. Mais maintenant, les évêques se rencontrent, et ils ne parlent plus en latin entre eux, comme à Vatican II.
Mais on n'aborde pas le célibat des prêtres, encore moins le divorce, l'ordination des femmes, pas même la contraception. Pourtant, ce sont des éléments de progrès qui auraient pu illustrer un progrès rapide et spectaculaire.
Je dirais que c'est important de voir que les questions ont été débattues au Concile. Donc, quand on regarde le prêt, il y a eu des discussions sur le sujet. Voilà. Sur la contraception, la décision au moment du Concile, ça a été de ne pas changer la doctrine. Ce qui s'est passé, c'est que se sont tenues des commissions. Voilà. Et pour la contraception, le sujet a été retiré par le pape Jean XXIII, qui a nommé une commission. Mais comme on sait bien, souvent les commissions, ça sert à repousser les échéances et à éviter une décision publique, des débats publics. Voilà. Ah oui. Je dirais que c'est ça qui change les choses. Et en particulier sur la question pour le célibat des prêtres et l'ordination de prêtres mariés, les évêques espéraient qu'il y ait aussi une commission, ce qui n'a pas été le cas. C'est le pape, le successeur de Jean XXIII, le pape Paul VI, qui lui a décidé de prendre pour lui la décision et de publier lui-même un texte plus tard qui a fait un effet de bouleversement majeur. Parce qu'on ne s'attendait pas à ça quelques années après Vatican II, 2 textes successifs sur 2 questions qui justement travaillaient beaucoup fidèles et prêtres, la contraception et l'ordination de prêtres mariés, et de voir qu'il y a un blocage à ce moment-là, alors qu'on espérait que le Concile continue dans sa lignée et que l'Église en fait accentue les réformes. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que Jean XXIII a été le plus libéral, le plus progressif de tous les papes, on va dire contemporains, remontant jusqu'au début du XXe?
Je serais prudente là-dessus, parce qu'on voit bien que sur la question de la contraception, il a retiré la question du Concile. Ouais. Je dirais que ce qui est fascinant dans la personnalité du pape, c'est sa proximité avec les gens, et je dirais aussi sa personnalité médiatique. C'est sans doute le premier des papes du XXe siècle aussi médiatique. Proximité avec les prisonniers, visite des hôpitaux, c'est un des premiers papes à sortir du Vatican au XXe siècle pour aller faire des visites pastorales. Et je dirais que c'est un des aspects qui l'ont rendu très apprécié.
Alors justement, à ce propos, on va passer à un autre pape, parce qu'il était le plus politique de tous les papes, évidemment Jean-Paul II, qui était un conservateur. Quel était son rapport avec Vatican II?
Jean-Paul II, ce qui est intéressant, c'était qu'il était un jeune évêque à Vatican II.
Voilà. Ah oui, de Pologne.
Il a joué un rôle majeur dans une des constitutions qui s'appelle Gaudium et Spes, joie et espoir, et qui est consacré à l'ouverture de l'Église au monde. Et donc c'est intéressant de voir que justement il était très concerné par cette question de l'ouverture au monde, notamment par sa proximité avec les jeunes. Mais qu'en même temps, ben en fait, quand on l'a vu relire Vatican II dans les années 80, on a assisté à un tournant véritablement conservateur. Mmh. Je dirais que, encore davantage que les textes de Paul VI sur la contraception et la question de l'ordination d'hommes mariés, le tournant conservateur, c'est vraiment sous Jean-Paul II, aussi parce qu'il s'est associé à toute une série de communautés nouvelles, de fidèles laïcs, prêtres et religieux, qui ont porté cet agenda conservateur. D'où proche, les tensions actuelles qu'on a aujourd'hui.
Il était proche de Opus Dei aussi.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Agnès Desmazières, quand on parle du Concile Vatican II, on parle de ce qui a été débattu, des sujets qui ont été discutés. On parle moins de ce dont il n'a pas été question. Enfin, apparemment. En particulier s'agissant des violences sexuelles dans l'Église. Et vous, vous avez enquêté sur le sujet, vous en avez tiré un livre. Et vous dites, ça c'est intéressant, contrairement à toute attente, dans les archives du Vatican, on voit que cette question a été abordée en amont du Concile, lors des travaux préparatoires. Que disaient ces échanges ?
Alors, ce qui est d'abord frappant, c'est le nombre de silences de la part des évêques. Que traduit ce silence ? S'agit-il de désintérêt, de gêne ? Ensuite, je dirais qu'il y a l'isolement des personnes qui ont porté le texte, la fameuse commission pour la discipline du clergé, qui trouve peu de tout soutien auprès de la commission centrale chargée d'évaluer les textes rédigés. Alors, quand on regarde de près les évêques qui montent au créneau, en fait, ceux qui critiquent le texte, en fait, insistent sur le risque de scandale. Pour eux, parler de cette question au concile manifesterait l'extension de la pédocriminalité. Derrière tout ça, ben, y a la conscience que le concile est un événement médiatique, que les médias seront là et risquent de s'emparer du sujet. Alors, je dirais qu'aussi, il y a un risque d'ingérence du Vatican dans leurs affaires. En pratique, le Vatican était plus sévère que les évêques, et les évêques ne voulaient surtout pas que le Vatican s'en mêle.
Alors, en 1960, pourtant, les plus hautes autorités de l'Église catholique sont très au courant de ces problématiques criminelles. Certains proposent d'ailleurs des sanctions systématiques, comme l'excommunication immédiate. Pourquoi avoir choisi d'exclure cette question majeure du Concile ? Alors, vous le dites, parce qu'on a peur du scandale, mais le vrai scandale, c'est d'avoir tué le scandale.
Ben, je dirais que ce qui est intéressant d'abord, c'est de savoir qu'en fait, les années 60 n'étaient pas le premier moment où on a déjà eu conscience de l'extension des faits. Déjà dans les années 30, il y a eu des procès nazis en Allemagne contre les prêtres et les religieux pédocriminels. Et le Vatican, à ce moment-là, a eu l'information que les accusations étaient véridiques. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu conscience de l'extension des problèmes. Donc on voit déjà une réaction 30 ans plus tard. Ce qui est intéressant de noter au moment du Vatican, c'est que ceux qui portent le texte ont conscience que les fidèles, l'opinion publique, sont scandalisés par ces
pratiques,
et qu'il faut désormais changer. Mais les évêques considèrent, il est mieux d'étouffer l'affaire. Et on voit bien la tension qu'il y a, je dirais que la tension est toujours là, en fait, entre, d'une part, étouffer le scandale tant que c'est possible, de n'en rien dire, donc du coup on ne parle pas à Vatican II, et puis, une fois que le scandale éclate, essayer par toutes les stratégies possibles de pouvoir le limiter. Et on voit bien que, par exemple, dans le cas des procès nazis, le Vatican a dit « bah oui, mais en fait, ce sont les nazis qui ont dit ça, donc de ce fait-là, il ne faut pas accorder de crédibilité à ça ». Sauf qu'en fait, il était bien conscient de ce qui s'était passé. Voilà.
Alors, il a fallu attendre.
Donc, on voit bien que c'est très d'agilir. Voilà.
Il a fallu attendre le début des années 2000, notamment avec l'affaire des prêtres de Boston, pour que cette question soit reconnue par l'Église. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là dans l'institution ? Est-ce que ça a vraiment changé ?
Je dirais que pour moi, ces dynamiques-là n'ont pas vraiment changé. Elles sont toujours au cœur du mode de fonctionnement de l'Église. Voilà. Étouffer tant qu'on peut et empêcher que ça sorte. Et une fois que c'est sorti, trouver des stratégies pour limiter les effets. Voilà. Et je dirais qu'aujourd'hui, on voit bien, en particulier, et je dirais que ça, c'est un phénomène spécifiquement français, toutes ces multiplications de commissions d'enquête où chaque institution religieuse incriminée, association caritative catholique, etc., eh ben, se bâtit une commission d'enquête pour étouffer les faits. Hein. Et je dirais que on voit bien que on a un mécanisme d'ailleurs similaire à ce dont j'ai parlé à Vatican II, la création de commissions qui vise en fait à endiguer le problème plus qu'à le résoudre. Hein. Et honnêtement, je ne pense pas que l'Église catholique seule arrivera à se sortir de ces problèmes et qu'il est nécessaire que les pouvoirs politiques et la justice s'en emparent. Et je dirais que là, c'est aussi une réflexion du rapport de l'Église au monde. Hein. Dans quelle mesure l'attention de Vatican II de s'ouvrir au monde ne signifie pas aussi le respect des lois de la République, hein, et une conscientisation de l'ensemble de ses membres qu'ils sont censés respecter les lois de la République, et ça signifie ne pas dissimuler, ne pas étouffer les scandales, et au contraire, eh bien, trouver des solutions, mais ces solutions, ben, c'est d'abord l'État et le pouvoir politique, la justice, qui sont amenés à les trouver.
Et que penser de cet argument fallacieux selon lequel les catholiques ne sont pas prêts à entendre ces sujets de violence sexuelle ? Vous disiez le contraire tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, au contraire, les catholiques, les pratiquants, les fidèles, manifestement veulent qu'on en parle pour se débarrasser de ce fléau.
Ben, je dirais que puis c'était déjà le cas dans les années 60, hein. Et c'est ça qui a porté le texte. Donc je dirais que pour moi, l'argument des fidèles ne sont pas prêts, ben, de toute façon, en général, ceux qui disent ça, ce sont des prêtres et des évêques, dans une posture condescendante, paternaliste. Je dirais que ça traduit aussi, derrière tout ça, la question de la place des fidèles dans l'Église catholique, du rôle de la hiérarchie, qui est une hiérarchie exclusivement masculine, composé d'hommes ordonnés, voilà, et que je dirais que derrière tout ça, Vatican II n'a peut-être pas joué son rôle dans cette question-là jusqu'au bout. Hein.
Oui, le rôle de la
vertu. Par exemple, on a parlé de liberté religieuse.
Oui. Oui, je vous en prie.
Non, on a parlé de liberté religieuse, de dialogue interreligieux, mais par exemple, le mot dialogue à Vatican II n'était pas employé à l'intérieur de l'Église catholique. Ouais. Voilà, on a choisi de ne pas utiliser ce terme pour pas qu'il y ait une telle égalité. Et je dirais que ça, c'est une vraie question qui est derrière tout ça. Voilà. Et que je dirais que c'est pas sans lien sur les violences sexuelles.
Mais ce sera le mot de la fin, Agnès Demazière. Merci infiniment. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Et Affaires Sensibles aujourd'hui, le Concile Vatican II, une émission que vous pouvez retrouver en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillet.